Je vais encore remettre ces moments entre les mains du Seigneur pour que vraiment le Seigneur puisse ensemble nous guider dans cette parole que nous allons partager ce matin. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, je te bénis pour ces moments. Mon Dieu, nous sommes encore devant ta face et nous voulons être à l'écoute de ta parole, Jésus. Que tu puisses encore m'aider, me diriger, me donner les mots qu'il faut pour que je puisse parler, Saint Dieu, à ton assemblée. Pour que vraiment, Saint Dieu, tu aies toute la liberté au travers de moi de pouvoir dire ce que tu as à dire encore ce matin à nos frères et sœurs, à nos amis qui sont là ce matin. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus. À toi seul revient toute la gloire. Amen. Le titre de ma prédication est le suivant. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est une bonne question, je crois. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et cette question, je pense que plusieurs nous la sommes posés dans notre vie, à un moment ou à un autre. Et des fois, nous avons trouvé une réponse, des fois, une réponse un peu moins satisfaisante. Et cette question est une question aussi que beaucoup de personnes dans le monde qui ne font pas forcément à l'église se posent, mais d'une façon un peu différente. Et je crois qu'on pourrait se la poser comme cela. Pourquoi suis-je né? Quel est mon but sur cette terre? Et je crois que beaucoup de personnes n'ont pas trouvé la réponse à cette question. Et ils se sont égarés. Et ils ont choisi des voies qui sont bien mauvaises. Et nous le voyons. Et ce matin, j'aimerais prendre avec vous ce passage où justement un homme a posé cette question au Seigneur. Actes, chapitre 9. Et nous allons prendre le temps d'étudier la rencontre que Paul a eue avec le Seigneur. L'apôtre Paul, nommé Saul. Acte 9, et nous allons lire plusieurs versets. Nous allons lire juste du verset 1 au verset 19. Acte 9, chapitre 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs, chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant « Saul, Mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Amen. Voilà une sacrée lecture, une sacrée expérience que Saul a pu faire. Saul, Paul, on le voit dans la parole de Dieu que Saul a choisi de se faire appeler Paul plus tard, tout simplement parce que Paul signifiait petit et que Paul se sentait petit devant le Seigneur. Mais là, nous voyons cet homme, Saul. Quel témoignage avait-il, respirant encore la menace et le meurtre? Je pense que je ne sais pas comment on pouvait aborder cet homme-là, mais nous voyons qu'il y avait toute cette haine et toute cette incompréhension par rapport à ce que les disciples du Seigneur faisaient. Et au travers de son témoignage, nous allons essayer de voir trois questions. La première, c'est comment considérons-nous Dieu, Jésus? La deuxième sera pourquoi sommes-nous sauvés? Et la troisième, voulons-nous nous mettre à disposition du Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Quand Saul a eu cette vision, quand Saul a vu cette lumière et cette voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Nous voyons que Saul ne connaissait pas Jésus. Puisqu'il pose cette question, qui es-tu, Seigneur? Quand nous ne connaissons pas une personne, on lui demande comment elle s'appelle, on lui demande, mais qui êtes-vous? Qui es-tu, Seigneur? Et je crois que c'est la question déjà la primordiale qu'il faut que chacun nous puissions se poser. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Nous pouvons faire une autre lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Chapitre de Jean, évangile de Jean, chapitre 1, au verset 9, il est dit « Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Voilà qui est le Seigneur. Voilà qui est le Seigneur Jésus. Oui, Jésus est le Fils de Dieu venu sur terre. Il est le moyen que Dieu a choisi pour réconcilier le monde avec lui. Peut-être vous n'êtes pas familier avec cela, alors laissez-moi un peu vous parler de Christ. La réconciliation, qu'est-ce que la réconciliation? La réconciliation, c'est quand il y a quelque chose, quand il y a une séparation, quand il y a un conflit. Et dans notre cas, c'est le péché. Le péché a mis une séparation entre Dieu et les hommes. Adam et Ève ont commis le premier péché. Et ce péché-là est devenu notre nature. Mais comme il est dit dans Romains 6, au verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Oui, le péché a une conséquence. Le péché a un prix, parce que nous avons un Dieu juste, un Dieu qui demande justice. Et le péché ne pouvait pas rester impuni. Oui, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et le moyen que Dieu a trouvé, le seul moyen qui était capable de pardonner le péché de tout être humain, de tout homme qui veut demander pardon à Dieu, le seul moyen qui était possible, c'est que Christ mort puisse mourir à la croix. Et c'est ce que nous rappelle encore ce pain et ce vin que nous avons pris tout à l'heure. Oui, le pain nous rappelle ce corps brisé, Le vin nous rappelle le sang versé de Jésus. Et le seul moyen que nous avons d'être pardonnés de nos péchés, peu importe la faute que nous avons commise, le seul moyen d'être pardonné, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus. C'est d'accepter que Jésus soit mort pour nous et de reconnaître que nous sommes pécheurs. De reconnaître que nous avons besoin que Jésus nous purifie, que Jésus nous lave par son sang. Oui, peu importe qui nous sommes. Saul n'était pas un homme de bien. Saul n'était pas quelqu'un de bien, tout simplement. C'était un homme pécheur, comme chacun d'entre nous. Nous ne l'avons pas lu, mais nous le voyons au chapitre 8. Il nous est dit que Saul a approuvé le meurtre d'un homme, le meurtre d'Étienne. Et nous le savons, Étienne était un homme rempli d'esprit, un serviteur du Seigneur. Mais comme Saul n'avait pas encore compris qui était Jésus, Saul a approuvé ce meurtre. Alors ce matin, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de te dire que peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe là où tu en es, peu importe si à tes propres yeux, tu es impardonnable. Sache que Jésus est venu pour toi. Et même un meurtrier comme Saul, même un homme qui respirait la menace et le meurtre, même un homme comme lui a pu trouver le pardon en Jésus. Car la croix est tout. Car la croix peut tout. Si tu veuilles seulement t'approcher de Jésus simplement et reconnaître ton péché, reconnaître que tu es sale et que tu as besoin de la grâce de Dieu, alors le Seigneur Jésus peut te pardonner. Et le Seigneur Jésus veut te pardonner. Et la croix doit être tout, même pour nous qui marchons avec le Seigneur Jésus, nous qui avons déjà réalisé ce que le Seigneur a fait pour nous, nous qui avons comme sauveur et comme Seigneur justement. La croix doit rester présente chaque jour dans notre vie. Car du moment que nous sommes ici-bas sur cette terre, nous avons besoin de sa grâce. Bien des fois, nous nous ratons, bien des fois, nous nous trompons. Et il nous faut rester humbles et pouvoir avoir cette capacité de revenir continuellement à la croix pour pouvoir demander encore pardon au Seigneur Jésus pour les fautes que nous aurions pu commettre, pour les péchés que nous aurions pu commettre. Pour que le Seigneur puisse encore nous pardonner, encore nous laver. Mais une chose importante, que bien des fois nous oublions, c'est que Saul, pour entendre la voix du Seigneur, eh bien il a dû tomber. Le Seigneur a dû l'arrêter. Et littéralement, il est tombé. Alors, est-ce qu'il était à cheval? Est-ce qu'il était à pied? Ce n'est pas précisé. Mais nous savons que Saul tomba à terre. Et ce matin, ça c'est une parole pour l'un d'entre nous. Le Seigneur te dit arrête, arrête-toi, car le chemin sur lequel tu es est un chemin mauvais. Arrête-toi et considère qui est Jésus. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Oui, peut-être que par ton comportement, que par les choix que tu es en train de faire, le Seigneur veut t'arrêter, parce que dans la voie dans laquelle tu es, c'est comme si tu persécutais Jésus. Car ce que tu ne fais n'est pas à sa gloire. Car le témoignage que tu vas rendre en allant sur ce chemin ne sera pas à la gloire de Jésus. Alors le Seigneur te le dit ce matin, arrête-toi. Arrête-toi. Et considère. Considère encore une fois ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. Arrête-toi. Ma deuxième question, c'était pourquoi ? Pourquoi sommes-nous sauvés ? Pourquoi le Seigneur Jésus est venu sur cette croix? Une partie de la réponse a été dit, je l'ai déjà dit, c'est vrai, c'est pour nous pardonner de tous nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec le Père, et pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est la première des choses pour laquelle Jésus est venu sur cette terre. Et la première des choses pourquoi le Seigneur veut nous sauver, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Car il y a cette réalité, la vie ne finit pas ici-bas, mais la vie est éternelle. Certes, notre vie ici-bas a un début, le jour de notre naissance, et une fin, le jour où nous mourrons, où nous quittons cette terre ici-bas, où nous sommes enterrés. Mais la vie ne s'arrête pas là, car notre âme que le Seigneur Jésus a placée en nous est éternelle. Et la première des choses que le Seigneur veut, c'est que nous ne périssions pas, nous n'allons pas dans ces tourments éternels, mais que bien au contraire, nous ayons la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est que nous le connaissions, que nous soyons avec lui pour l'éternité. Parce qu'il est la vie, il est la vie. Jésus-Christ est la vie. Et si nous voulons la vie éternelle, il nous faut avoir Jésus-Christ en nous. Il nous faut être, comme je l'ai dit, pardonnés de nos péchés. Jean 3,16 « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, Jésus est venu sur cette croix pour nous pardonner et nous pouvons avoir Jésus comme sauveur. Mais nous ne devons pas nous arrêter à Jésus qui nous pardonne. Il nous faut aller à Jésus notre Seigneur, celui qui dirige nos vies, celui qui nous amène là où nous devons aller. Prenons encore un passage, s'il vous plaît. J'aime à lire dans la parole de Dieu parce que elle est tout. Romains, chapitre 6. Alors, nous allons faire plusieurs lectures ce matin. Car ce que je dis, c'est peut-être intéressant, c'est peut-être bien, je l'espère. Mais le plus important, c'est la parole de Dieu. Romains 6, verset 17. Nous allons lire du verset 17 au verset 22. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Ce texte nous montre qu'il nous faut nous placer au service du Seigneur d'une façon volontaire, en obéissant de cœur à la justice de Dieu. Ce texte que nous avons lu est fort. Et l'auteur de ce texte fait exprès d'utiliser ces mots un peu forts, nous rendre esclaves de la justice, pour nous faire comprendre que nous avons été esclaves du péché. Nous avons été esclaves de ce péché. Ce péché nous tenait liés. Et nous étions dans l'impossibilité de nous défaire de ce péché. Oui, nous avons été esclaves. Mais maintenant, nous pouvons nous rendre esclaves volontairement à la justice de Dieu. Nous pouvons nous rendre esclaves volontairement à la grâce de Dieu. Oui, c'est un choix que nous pouvons faire, de vouloir suivre Jésus, de nous laisser transformer par lui. Car le Seigneur ne veut pas que nous restions sans rien faire. Car c'est vrai, le Seigneur Jésus nous a sauvés pour que nous puissions avoir la vie éternelle, mais le Seigneur veut bien plus que cela. Le Seigneur veut que nous puissions rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il veut que nous soyons des serviteurs utiles, utiles pour le Maître, afin que oui, quand notre temps sera fini ici-bas, nous puissions entendre « Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton Maître. » N'est-ce pas des paroles merveilleuses? Entre, bon et fidèle serviteur. Quelle grâce de savoir que nous pouvons être considérés comme des bons serviteurs de la part du grand maître. Oui, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Il est le Seigneur de l'univers, le Dieu tout-puissant, Par lui est toute chose. Il a créé toute chose. Il a créé toute chose. Et pourtant, il désire une chose. C'est que nous soyons à son service. C'est que nous puissions nous placer sous sa main pour entrer dans les projets que nous avons, que le Seigneur a pour nous. Il est dit dans Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Car oui, c'est bien, c'est quelque chose de dire, Seigneur, je crois en toi, je crois que tu m'as sauvé. Mais si nous en restons là, cela ne sert à rien. Il est important de se mettre au service du Seigneur. Il est important de rentrer dans les plans que le Seigneur a pour nous. Car c'est un danger que de ne rien faire. Nous le voyons à plusieurs reprises dans les proverbes, il est parlé du paresseux. Et combien c'est un danger d'être paresseux. Le Seigneur a dit à Saul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Alors c'est une expression qui n'est pas très facile à comprendre. Et j'ai dû chercher un peu pour savoir vraiment qu'est-ce qu'elle voulait dire. Parce que c'est un langage dans lequel nous sommes plus trop familiers. Un aiguillon, c'était un bâton au bout duquel il était fixé une pointe de fer, une pointe en fer, qui servait à diriger les bœufs, notamment pour tracer les sillons dans les champs. Et cela permettait aux paysans de faire en sorte que les bœufs n'aillent ni à gauche, ni à droite. S'ils se détournaient, ils lui donnaient un coup d'aiguillon et avec cette pointe de fer, le bœuf revenait dans le bon chemin. Et ainsi, le sillon qu'il traçait était droit. Et le Seigneur dit ça à Paul. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il te serait dur. C'est pas que tu ne peux pas. Le Seigneur nous laisse libres. Tu peux choisir une autre voie. Mais attention à toi. Cette voie est mauvaise. Et la voie dans laquelle tu vas aller, elle n'est pas bonne. Et le Seigneur, par son esprit qui peut être l'image de cet aiguillon, veut nous conduire dans ces bonnes voies. Alors certes, la pointe n'est pas en fer, le Saint-Esprit n'est pas là pour nous faire mal. Mais le Saint-Esprit peut, par des pics, nous rappeler, nous dire « Attention, attention, là c'est compliqué, là c'est dangereux, tu es sur un chemin glissant. La voie que j'ai placée devant toi n'est pas celle-là. La voie que j'ai mise devant toi n'est pas celle-là. » Alors oui, le Seigneur veut nous amener dans des plans bien précis. Et cela nous est confirmé au verset 15, nous l'avons lu, quand le Seigneur dit à Ananias d'aller prier pour Saul. Il dit oui, Saul, il est un instrument que j'ai choisi. Il est un instrument que j'ai choisi. Il est un instrument que j'ai choisi. Et le Seigneur veut pouvoir dire à quelqu'un cela ce matin. Tu es un instrument que j'ai choisi. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Voilà les projets que l'Éternel a pour nous. Voilà les projets que l'Éternel a pour chacun d'entre nous. Il nous faut comprendre que se mettre au service de Jésus est un privilège immense. Ce n'est pas nous qui faisons une grâce au Seigneur que de nous mettre à sa disposition, mais c'est le Seigneur qui nous fait grâce que de pouvoir être à son service. Est-ce que ce que Saul a réalisé, quand il a compris qui était Jésus, quand il a compris que Jésus était ce grand Dieu, Saul a de suite compris. Il nous est dit, il a été saisi d'effroi et de tremblement. Saisi d'effroi et tremblant, il pose cette question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oui, quand nous sommes confrontés à Christ, quand notre vie est confrontée à cet amour immense, à ce Dieu si grand, à ce Dieu si puissant, nous n'avons pas d'autre choix que de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oui, le Seigneur Jésus a bien des projets pour nous. et nous serons éblouis. Éblouis de voir combien le Seigneur a des projets merveilleux pour nous. Si nous rentrons dans ces projets que le Seigneur a placés devant nous, combien nous verrons sa gloire, combien nous verrons sa grandeur, combien nous verrons combien il est un Dieu bon, un Dieu patient et un Dieu qui a vraiment de grandes choses pour nous. Oui. Maintenant que nous avons vu ces deux premières questions, il y a cette question, est-ce que nous voulons nous mettre à disposition du Seigneur? Car cela reste un choix. J'ai presque envie de dire que ces deux premiers points que nous venons voir sont quelque part les deux points les plus faciles de ma prédication et les deux plus faciles de notre vie. Car oui, cela dépend en grande majorité du Seigneur. Qui? Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, notre Sauveur et notre Seigneur. Qui est Jésus? Pourquoi nous a-t-il sauvés? Pour que nous soyons des serviteurs utiles, afin de rentrer dans ses plans. Et maintenant, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour son nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour son nom. Car c'est vrai, la vie avec le Seigneur est une vie remplie de grâce et de bénédiction. Et nous savons, car c'est lui-même qui nous l'a promis, qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il sera tous les jours avec nous. Mais pour autant, quand nous nous mettons au service du Seigneur, il y a des luttes, il y a des combats, il y a des fois où c'est compliqué, il y a des fois où c'est dur. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Certes, l'appel que Saul a reçu, le ministère que Paul a accompli, est un ministère particulier. Et nous ne sommes pas tous appelés à avoir ce ministère que Paul a eu. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur nous appelle tous à le suivre. Et que le Seigneur nous appelle tous, chacun pour notre part, à nous mettre à son service. Mais pour pouvoir nous mettre à son service et pour pouvoir faire en sorte que le Seigneur puisse pleinement nous utiliser, Dieu a besoin de nous façonner à son image pour que nous soyons des serviteurs qualifiés. Et un serviteur qualifié, un ouvrier qualifié, c'est un ouvrier qui passe du temps à pratiquer son art. Un forgeron, il prend du temps pour apprendre à forger. Il forge, il forge, il forge. Et il a besoin d'être formé jusqu'à ce qu'il soit un ouvrier qualifié et que son formateur puisse lui dire « Oui, maintenant, tu es un forgeron accompli. Tu es un homme qualifié. Tu es un ouvrier qualifié. » Et avec le Seigneur Jésus, c'est la même chose. Nous devons être des serviteurs qualifiés. Mais pour que le Seigneur puisse nous qualifier, pour que le Seigneur puisse nous utiliser pleinement, il faut qu'il mette son empreinte, son esprit en nous. Il faut que nous puissions être façonnés de l'intérieur. Qu'est-ce qui était le plus dur pour Dieu? D'ouvrir la mer Rouge en deux ou de trouver un Moïse? Ouvrir la mer Rouge en deux, c'était quoi? Manifester sa puissance, manifester ce qu'il était. Pour Dieu, ce n'était rien. Une parole et la terre a été créée. Une parole et la vie a été créée. Mais trouver un Moïse, ce n'était pas rien. Moïse a été instruit de toute la sagesse de l'Égypte. Il nous est dit que c'était un homme capable, rempli d'intelligence et de science. Le top du top. Sorti des meilleures écoles, des meilleures facultés, la meilleure connaissance de l'époque. Et pourtant, Moïse n'a pas pu être utile au Seigneur avec cela. Moïse n'a pas été utile au Seigneur avec ça. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Il a fallu 40 ans pour que l'Égypte puisse sortir de Moïse. Il a fallu 40 ans pour que le monde, pour que tout ce qu'il avait toute l'intelligence, toute l'instruction qu'il avait pu recevoir du monde puisse sortir de Moïse. 40 ans dans le désert. 40 ans à garder des troupeaux seul. 40 ans pour que le Seigneur puisse utiliser Moïse. Oui, au bout de 40 ans, au bout de 40 années, le Seigneur a appelé Moïse. Le Seigneur a pu qualifier Moïse. Et pour lui dire, écoute Moïse, j'ai un plan pour toi. Tu vas aller délivrer mon peuple. Mais il a fallu attendre 40 ans. Osée, chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Voilà le projet que le Seigneur a pour nous. Voilà le chemin que le Seigneur a pour nous, le désert. Ah, le désert n'est pas un lieu attirant. Je ne sais pas comment vous choisissez vos destinations de vacances, mais je ne sais pas si c'est le premier choix qui vient à votre esprit. Ah, cet été je pars au Sahara. 3 semaines dans le désert. 40 degrés le jour, moins de 40 la nuit. Super destination. Je ne sais pas si c'est votre choix le premier. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur veut. Le désert, c'est l'image de la solitude. Le désert, c'est l'image de cette solitude, seul avec Dieu. Seul avec Dieu, avec notre Sauveur, avec notre Seigneur. Coupé de tout le reste, coupé de notre vie de tous les jours, coupé de ce qui peut nous prendre la tête, coupé de tous nos soucis. Seul, avec le Seigneur. Et là, je parlerai à son cœur. Là, je l'instruirai. Oui, le Seigneur veut nous amener au désert, pas pour que nous puissions passer un moment compliqué, mais pour que le Seigneur puisse nous parler au plus profond et pour qu'il puisse mettre le doigt sur ce qu'il ne va et sur ce que le doigt sur ce qu'il ne va pas. Pour te dire, écoute mon enfant. Écoute mon enfant, là ça ne va pas. Regarde, cette chose prend trop de place. Cette chose prend trop de place dans ta vie. Et je ne peux pas t'utiliser. Tu crois que tu me sers, tu crois que tu m'es utile, mais attends, c'est pas ça que je te demande. Certes, c'est bien ce que tu fais, mais c'est pas ça que je te demande. Ce que je te demande, c'est ça et ça. Alors, dans l'intimité, Dieu veut nous changer. Entre. Entre dans le secret de ta chambre. Et le Dieu, le grand Dieu te voit, là, dans le secret. Entre dans ce secret, seul. Seul avec ton Père. Seul avec ton Dieu. Oui, nous avons besoin de ça, chacun pour notre part, chacun individuellement, nous avons besoin de cela. Et là, à l'image de Moïse, quand il se tenait en communion avec Dieu, avait son visage brillant de la gloire de Dieu, il en sera de même pour nous. Quand nous prenons du temps pour nous tenir seuls dans la présence du Seigneur, seuls dans la lecture de sa parole, seuls dans la prière, seuls dans le silence. Oui, faites silence en vos cœurs, seuls dans le silence. Alors le Seigneur peut commencer à transformer nos cœurs, à changer nos vies. Et peut-être que nous ne le verrons pas, mais je vous l'assure, ceux qui sont autour de vous le verront et te demanderont, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Tu n'es plus le même. Oui, le Seigneur change nos cœurs, change nos vies. Alors sommes-nous prêts à payer ce prix? Sommes-nous prêts à voir la gloire de Dieu dans nos vies? Car servir est une chose utile, Mais faire ce que le Seigneur nous demande est quand même beaucoup mieux. Ce matin, je peux être là, vous apporter la parole de Dieu. C'est quelque chose d'excellent. Mais ce qui est vraiment excellent, c'est que je sois à ma place. Car peut-être que le Seigneur me voulait ailleurs. Et dans ces cas-là, ce que je fais ce matin est inutile. Mais soyez rassurés, je sais que le Seigneur me voulait là ce matin avec vous. Et que nous puissions simplement, chacun pour notre part, nous poser cette question. C'est vrai, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Plus tard, Paul a pu dire, nous le voyons dans ses écrits, Saul, Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Car je ne veux savoir qu'une seule chose parmi vous, Christ crucifié et Christ ressuscité. Voilà ce que Paul voulait savoir quand il allait dans les églises, quand il prêchait l'évangile. Il n'avait qu'une obsession, pardonnez-moi l'expression, mais de savoir que Christ régnait dans chacune de nos vies. Oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous pourrions prendre toute la vie de Paul, depuis ce jour-là où il a rencontré le Seigneur Jésus sur la route de Damas, jusqu'à la fin de sa vie. Nous voyons combien Paul aimait à se tenir dans la présence du Seigneur. Nous le voyons un peu plus loin dans les Actes, où il était en route avec d'autres frères et sœurs pour aller à certains endroits. Et poussé par l'Esprit, il a dû prendre un chemin détourné pour être seul avec Dieu. Il a dit aux frères, « Continue la route, je vous rejoins, mais j'ai besoin d'être seul avec mon Dieu. » Et même le Seigneur Jésus, ici-bas sur cette terre, pourtant parfait, pourtant le Seigneur de l'univers, mais pleinement homme, notre exemple parfait, et nous le voyons à plusieurs reprises, Jésus se tenait seul. Jésus était seul en prière. Alors je ne sais pas si vous aimez la solitude, mais je vous encourage à aimer cette solitude-là. Nous pouvons nous réjouir d'être dans la communion fraternelle, de pouvoir nous réjouir ensemble, de par cet amour qui nous lie, par cet esprit de paix que nous avons ensemble, d'être là. Ce matin, moi, je suis dans la joie d'être avec vous. Et je sais que c'est une bénédiction, la communion fraternelle. Mais combien cette communion seul à seul, cette solitude seule avec le Seigneur, est quelque chose d'exceptionnel aussi. Oui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, Jésus-Christ sur la croix. Nous sommes sauvés pour recevoir la vie éternelle, mais plus que cela, pour que nous soyons utiles entre les mains de notre bon Maître, que nous rentrons dans les plans merveilleux qu'il a pour nous. Et pour cela, il nous faut, pour voir pleinement la gloire de Dieu dans nos vies, pour que le Seigneur puisse pleinement se révéler à nous, il nous faut nous laisser changer par le Seigneur. Et bien cela se passe au désert, dans le lieu secret. Que le Seigneur soit béni. Mon Dieu, merci. Merci pour ce que tu fais pour nous. C'est vrai, merci pour ce sacrifice à la croix. Mais merci pour ta parole que tu nous as laissée aussi, Seigneur Jésus. Et merci parce que c'est vrai. Combien tu veux te révéler à nous et combien tu veux nous conduire dans ces plans merveilleux que tu as pour nous. Alors c'est vrai, peut-être que à nos yeux humains, le prix à payer est peut-être grand. Mais nous savons que la récompense est bien plus grande. Car, ô mon Dieu, voir ta gloire, qu'est-ce que de plus grand, Jésus ? Être à ton service et être utile entre tes mains, qu'est-ce que plus grand que cela, Jésus ? Alors sois béni, Saint-Dieu, et bénis encore cette assemblée, mon Dieu. Merci pour mes frères et sœurs, pour mes amis qui étaient là ce matin. Que tu puisses les bénir, et à toi seul revient toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur soit béni.